Radio Kapi.
Les informations, Blaise Shindani Kambala.
Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le titre de ce journal. En Ituri, les personnes victimes des inondations du lac Albert depuis 2009 continuent à vivre dans des conditions difficiles dans les camps de pêche du territoire de Mahagui. Voilà pourquoi la coordination provinciale de la protection civile en Ituri lance une alerte au gouvernement et aux humanitaires pour venir en aide aux sinistrés. La vie a repris son cours normal dans la ville d'Uvira après le retrait des troupes rebelles de l'FCM-23 soutenu par l'armée rwandaise. C'est ce qu'a déclaré ce mardi le gouverneur Jean-Jacques Pourouzi lors de l'émission Dialogue entre Congolais. Vous suivrez à la fin de ce journal les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier qui débattait sur le déploiement de l'armée congolaise à Uvira après le retrait des troupes de l'FCM-23 soutenu par l'armée rwandaise. Encore une fois, bonjour à tous et bienvenue à cette édition du journal. En Ituri, plus de 60 000 personnes victimes des inondations du lac Albert depuis 2019 vivent dans des conditions difficiles dans les camps de pêche du territoire de Mahagui. Maisons englouties, moyens de subsistance détruits et infrastructures des bases endommagées. La coordination provinciale de la protection civile en Ituri lance une alerte au gouvernement et aux humanitaires pour venir en aide aux sinistrés. Reportage d'Isaac Remoyope, rendu par Alain Roumouchinge.
Selon des sources locales, le bilan des inondations successives du lac Albert est lourd. 12 848 maisons, plus de 5 400 pirogues, 2 340 filets de pêche, 345 boutiques et 11 hôtels ont été détruits. Au total, 63 850 personnes ont été affectées par cette catastrophe naturelle, principalement dans la chefferie de Wagongo la plus touchée. Cette situation a un impact socio-économique majeur, la pêche constituant la principale activité de la population locale. Elle expose également les sinistrés à une insécurité alimentaire croissante. La crise est aggravée par la destruction des latrines, des points d'eau et des infrastructures sanitaires, exposant les populations aux maladies et limitant leur accès aux soins de santé. Face à l'urgence, la coordination provinciale de la protection civile appelle le gouvernement à construire des infrastructures de base, notamment des écoles, des centres de santé, des latrines et des puits d'eau aménagés, afin d'améliorer les conditions de vie des sinistrés. Elle plaide également pour une assistance humanitaire immédiate aux populations qui ont tout perdu. À noter que des centaines de villages lacustres ont été affectés par ces inondations dans les territoires de Mahagui, Djougou et Irumu, tous bordés par le lac Albert.
Tandis qu'au Congo central, depuis 4 jours, les robinets sont à sec dans plusieurs quartiers de la ville de Matadi. Cette pénurie d'eau potable perturbe le quotidien de nombreuses familles, contraintes de s'approvisionner aux bornes fontaines ou directement dans le fleuve. Dans un communiqué publié ce lundi, la Régie des eaux indique que cette situation résulte de l'arrêt de ces usines de production d'eau survenue dans la nuit du dimanche 18 janvier 2026 à la suite d'une panne sur les réseaux électriques de la Société Nationale d'Électricité SNEL. Nana Plurich Mambou nous en dit plus.
Les quartiers secoués par cette pénurie d'eau potable sont ceux desservis par l'usine fleuve de la Régie des eaux, laquelle est à l'arrêt depuis dimanche 18 janvier à la suite d'une panne sur les réseaux électriques de la SNEL. Il s'agit notamment du quartier Mambote, Momo, Nord, Kassou, Kinkanda, Dalias, Biwewe, Belvedere, Oebeka et Kitomessa. À moins de 3 jours sans eau potable, les réserves d'eau se sont épuisées et la population de ces quartiers court déjà dans tous les sens avec les récipients en main en quête de cette denrée vitale. Témoignage.
Nous souffrons depuis le dimanche soir où il y a eu une panne à la Régie des eaux. Nous avons entendu que les agents sont à pied d'œuvre pour tenter de résoudre la situation. Force est de constater que jusque-là, aucune amélioration n'est faite et ça commence à en pâtir un peu avec les attentes de la population que nous sommes parce que c'est tous les jours que nous utilisons de l'eau et les réserves commencent à s'épuiser et ça c'est ce qui nous dérange de plus en plus.
La régie des eaux de son côté rassure que ses équipes techniques sont en collaboration avec celles de la SNEL et poursuivent les interventions sur l'usine fleuve afin de décanter la panne. La régie des eaux promet un retour progressif à la normale dans les heures qui suivent. Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
Je le disais tantôt en titre, la vie a repris son cours normal dans la ville d'Uvira en province du Sud Kivu après le retrait des troupes rebelles de l'FC M23 soutenues par l'armée rwandaise. C'est ce qu'a déclaré ce mardi le gouverneur Jean-Jacques Purusi lors de l'émission Dialogue entre Congolais animée par Guy Maté Tchongo. Il a indiqué que le gouvernement provincial devrait lui aussi s'installer dans les prochains jours avant d'appeler les populations réfugiées à regagner leur foyer. On écoute Jean-Jacques Purusi dans cet extrait proposé par Alain Rungmouchinj.
Les élèves ont repris les chemins de l'école, les commerces ont repris, les magasins ont repris. Nous venons de terminer une réunion du Conseil de sécurité élargie au Conseil des ministres. Demain, nous avons une autre réunion pour inviter les différentes institutions bancaires qui doivent reprendre leurs activités. Eh bien, tous les services de l'État ont repris et le Conseil local de sécurité que nous tenons demain va clarifier toutes ces questions et la vie a repris. Les populations ne vont pas revenir parce que nous continuons à faire le check des mines antipersonnelles déposées ici et là, y compris dans le bureau du gouvernement provincial et dans le bureau de l'Assemblée provinciale, ainsi de suite. Donc là, nous ne sommes pas installés dans ces locaux. Nous avons trouvé d'autres formules. Et pour la population, nous avons demandé sciemment à nos populations déplacées, à nos populations réfugiées, d'attendre encore 2 ou 3 jours avant de rentrer. Et donc, c'est nous, c'est la province, en collaboration avec les services amis burundais et tanzaniens, qui allons donner le go-ahead pour demander à la population quelle date ils peuvent rentrer. Parce que vous comprenez que nous avons plus de 300 000 personnes réfugiées.
Et puis sachez que la situation des droits humains reste alarmante en République démocratique du Congo. Au moins 542 violations et atteintes ont été documentées au mois de novembre 2025, soit une hausse de 28% par rapport au mois précédent. C'est ce qu'indique le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNIDH, publié ce mardi à Kinshasa. Ce rapport précise que les provinces de l'Est, en proie aux conflits armés, concentrent l'essentiel de ces violations avec un lourd tribut payé par les civils, notamment les femmes et les enfants. Plus de détails avec vous, grâce à Mzati Masanzi.
Selon le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, 9 cas sur 10 ont été commis dans les zones affectées par les conflits armés, principalement au nord Kivu, au sud Kivu et en Ituri. Les groupes armés restent les principaux responsables avec 78% des violations, notamment le M23, les Wazalendo et les ADF. Les agents de l'État sont également mis en cause dans 21% des cas, principalement des éléments de la police nationale congolaise et des forces armées de la RDC, à travers des arrestations arbitraires, des mauvais traitements et des atteintes au droit à la vie. Le rapport met aussi en lumière une forte recrudescence des violences sexuelles liées au conflit. En novembre, 91 victimes, majoritairement des femmes et des filles, ont été recensées, soit une augmentation de 28% par rapport au mois précédent. Là encore, les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu sont les plus touchées. Par ailleurs, le BCNUDH dénonce des restrictions persistantes de l'espace civique avec des enlèvements, des menaces et des atteintes aux libertés publiques, notamment dans les zones sous contrôle des groupes armés. Face à cette situation, le bureau conjoint appelle à renforcer la lutte contre l'impunité, à mieux protéger les civils et à poursuivre les efforts de prévention, de formation et de sensibilisation en faveur des droits humains sur l'ensemble du territoire national.
Outiller les acteurs locaux de protection de l'appropriation progressive des mécanismes et outils de protection communautaire, c'est l'objectif d'un atelier de 3 jours organisé à Beni par des affaires civiles de la MONUSCO. Cette séance de renforcement des capacités vise à leur remettre des mécanismes qui pourront les aider à répondre aux menaces de protection des civils dans le contexte de la transition de la MONUSCO. Marc Marofimbo nous en dit plus.
Comprendre les actions de la MONUSCO en appui à la RDC pour la paix et la stabilisation, les mécanismes communautaires de protection avec l'appui de la MONUSCO, les défis de protection dans la partie grand nord de la province, le monitoring des violations des droits de l'homme, lutte contre la désinformation, mésinformation, discours de haine ainsi que la loi sur le numérique sont entre autres les matières à apprendre lors de cet atelier. Pour certains acteurs de la protection, cette activité est de grande importance pour unir les énergies des acteurs de la protection ensemble avec la communauté. Papi Kasereka est l'un d'eux.
L'atelier d'aujourd'hui va permettre que les différents acteurs qui travaillent dans la protection puissent avoir la capacité de travailler ensemble, de coordonner les réponses. Pour transmettre une information cruciale en termes de premiers signes avant-coureurs des violences, il faut que les membres de la communauté aient confiance aux acteurs étatiques. Les problèmes de la paix et de la sécurité, ce n'est pas un problème où il y a un côté des inspecteurs et de l'autre côté, il y a des gens auxquels on attaque qu'ils fassent le travail. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que les gens, s'ils disent, nous attendons que la MONUSCO vienne régler ces problèmes. Mais la MONUSCO ne va pas travailler seule. Il faut que les communautés s'impliquent. Si les communautés aussi ne peuvent pas faire seule, il faut que les FARDC interviennent. Il faut que la police intervienne. Il faut que la protection civile, par exemple, coordonne les alertes.
Cet atelier de renforcement des capacités qui va durer 3 jours bénéficie également d'expertise de la protection civile du gouvernement provincial du Nord Kivu. Beni Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Ce journal se poursuit au Kasaï Oriental, où les recrutements des jeunes au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, a officiellement débuté ce lundi à Mbujimayi. Selon l'armée, cette opération organisée au club de la minière de Bakwangamiba vise à constituer une brigade spéciale appelée Rangers. Des explications dans ce reportage d'Esther Ndalafina, rendu par Benjamin Moudoumbi.
Dès les premières heures, plusieurs jeunes âgés de 19 à 25 ans se sont regroupés autour du site des recrutements. Diplômés et détenteurs des brevets sont particulièrement attendus pour rejoindre le rang. Témoignage d'un candidat.
Bon, je suis venu solliciter aussi l'enrôlement dans l'armée pour soutenir le pays, aussi servir le pays sous les drapeaux.
Moi, je suis venu ici pour entrer seulement dans la formation, pour faire du site. Je voudrais me battre pour notre pays, fendre encore mon pays.
Lors de la cérémonie de lancement, le chef des missions a précisé que les nouvelles recrues bénéficieront d'une formation assurée par des instructeurs israéliens. L'objectif est de renforcer les capacités opérationnelles de cette brigade spéciale dans plusieurs domaines, dont l'aviation. Après l'inscription, les jeunes enrôlés sont immédiatement soumis à des épreuves d'aptitude physique, étape préalable à leur intégration définitive dans les FRDC.
Le président de la Ligue provinciale des personnes handicapées de Kinshasa, Lipropa, salue les avancées enregistrées dans leur secteur. Dans un entretien accordé ce mardi à Radio Kapi, Camille Kiteswa Masikini souligne notamment la promulgation de la loi organique fixant les modalités d'application des avantages accordés aux personnes vivant avec handicap, ainsi que la mise en place du secrétariat général du ministère qui a permis l'engagement de plus de 2000 personnes vivant avec handicap. Il met toutefois en garde contre certains acteurs politiques qu'il accuse de chercher à saper les actions menées en faveur de cette catégorie de la population. Camille Kiteswa au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Le bilan est largement positif parce que
le bilan de notre secteur est largement positif parce que notre ministre avait acquis d'une coquille vide. Mais aujourd'hui, beaucoup d'actions ont été menées. Le président Félix Tshisekedi nous a confié un portefeuille et il a placé une dame capable de mettre en œuvre sa vision. Là, nous avons vu la première réforme qui est la loi organique, qui a suscité plusieurs avantages pour les personnes vivant avec handicap. Nous avons le décret sur la représentativité des personnes vivant avec handicap. Nous devons être représentés dans les institutions publiques à 5% et dans celle des privés à 3%. Nous pouvons encore citer le Fonds national d'appui à l'autonomisation et à l'accessibilité des personnes handicapées. Mais nous constatons que certains politiciens verraient cherchent à saper les actions menées en faveur des personnes vivant avec handicap. Ils veulent nous diviser.
Avant d'aller plus loin, sachez que les transports ont été fortement perturbés ce mardi dans la ville de Kananga, au Kasaï central, où les conducteurs de moto-taxi ont observé une grève. Selon plusieurs d'entre eux, ce mouvement visait à dénoncer les tracasseries dont ils s'estiment victimes de la part de la police. Ils accusent notamment les agents d'immobiliser leurs motos sans motif valable et d'exiger des amendes allant de 100 000 à 500 000 francs congolais pour les récupérer.
Actualité internationale.
Le gouvernement togolais a confirmé mardi 20 janvier 2026 avoir extradé le 17 janvier vers le Burkina Faso l'ancien président de transition de ce pays, l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ce dernier a été renversé en 2022 et a été accusé depuis d'être le cerveau de plusieurs tentatives de putsch. Cette extradition soulève plusieurs interrogations. Pourquoi? Comment? et dans quel intérêt stratégique le Togo a-t-il accepté les demandes du Burkina Faso?
L'invité.
L'armée congolaise a annoncé lundi le 19 janvier s'être déployée dans la ville d'Uvira au sud Kivu. Le groupe armé AFC M23 soutenu par le Rwanda s'en était retiré le samedi 16 janvier, répondant selon lui à une demande américaine. Les Wazalendo ont fait leur entrée dans cette ville le dimanche matin. Il s'en est suivi des scènes de pillage de magasins, d'habitations et certains bureaux de l'État. Pour sa part, le gouvernement de la République démocratique du Congo annonce la mise en œuvre d'un plan de restauration progressive de l'autorité de l'État dans la ville d'Uvira et ses environs. Cette thématique était au centre des échanges dans l'émission Dialogue entre Congolais de ce mardi soir. Les différents intervenants à cette émission ont analysé cette question. On les écoute au micro de Guy Matechongo.
Bonjour, Jean-Jacques Porossi, vous êtes gouverneur de la province du Sud Kivu. Le M23 aurait menacé de retourner dans la ville d'Uvira. Selon certaines informations, ces mouvements rebelles se lamenteraient du fait que, quand elle a quitté cette ville d'Uvira, elle a demandé à ce qu'une force neutre, la MONUSCO, puisse se déployer et pas les FRDC, les Wazalendo, comme cela s'est fait actuellement. Est-ce que vous confirmez cette information faisant état des menaces de la rébellion M23 de retourner dans la ville d'Uvira?
Ce n'est pas à eux de fixer les conditions. Les FRDC se sont réinstallés et les FRDC font un travail fantastique où la communauté internationale a déjà félicité l'État congolais. Et seulement la tactique que l'AFC M23 appuyée par le Rwanda a utilisée, c'était la stratégie du chaos, au moins ou le chaos, en allant demander aux populations banyamulenge, qui sont des compatriotes congolais, de quitter, de les suivre, de quitter la ville, contraints à forcer les doigts à la gâchette. Hein. Et donc quand les FRDC sont rentrés, toutes les familles qui ont pu se cacher contre l'AFC M23, toutes ces familles ont pu être recueillies par les FRDC et réinstallées dans leurs biens. Voilà un peu la réalité.
Rigen Miviri, vous êtes avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche et du groupe d'études sur le Congo GEC. Comme les rebelles se sont retirés sous pression américaine, cela voudrait dire que cette même pression peut être utilisée pour leur demander de libérer aussi Bukavu et pourquoi pas Goma?
Je suppose que oui, mais en fait la question, il faut regarder les deux contextes. L'accord de Washington s'est passé après la prise de Goma et de Bukavu, à différence d'Uvira. Donc il faut se rappeler que cette nouvelle escalade a été lancée par le M23 et l'armée rwandaise à partir du 2 décembre. C'était avant la réunion de Washington entre le président congolais, rwandais et américain, qui s'est passé plutôt après. Et la prise de la ville d'Uvira a eu lieu le 10 décembre. Donc, vous voyez déjà le contexte et vous voyez aussi que les États-Unis avaient tout intérêt à montrer que cet accord-là ne peut pas être bafoué comme cela. Alors qu'à ce qui concerne Goma et Bukavu, le contexte était tout autre. Malheureusement, la rébellion a passé beaucoup de temps. À partir du 27, on va parler du premier anniversaire de la prise de la ville de Goma. En février, ça sera aussi le premier anniversaire de la prise de Bukavu. Et donc, j'ai comme l'impression qu'il s'est passé beaucoup de temps pour que, sans un accord concluant dans le cadre du processus de Doha, il me semble qu'il sera difficile que la rébellion quitte toutes les zones qu'elle occupe actuellement.
Et Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, vous êtes député national honoraire, vous êtes premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement SID en sigle, parti membre de la coalition Lamouka, vous êtes également notable de la province du Nord Kivu. À votre avis, que devrait faire le gouvernement pour capitaliser cet acquis du retrait du M23 de la ville d'Uvira?
Lorsque je compare le retrait d'Uvira aujourd'hui du retrait du M23 de Goma à novembre 2012, je trouve que les conditions sont totalement différentes. Aujourd'hui, le territoire sous occupation rwandaise M23 est le plus large. Aujourd'hui, nous n'avons plus à espérer que des troupes tanzaniennes, malawites et sud-africaines vont venir derrière les FARDC pour une opération militaire. Aujourd'hui, contrairement à Kampala qui avait démontré le vide des revendications du M23 doit être panne, au regard de tous ces contextes-là, la seule issue qui s'offre devant nous, c'est amener les États-Unis à faire pression aussi bien sur Félix que sur l'AFC M23 en vue d'un dialogue inclusif, mais ce dialogue exige des préalables, c'est-à-dire l'effectivité du cessez-le-feu. Cela exige également que l'on exige de toutes les parties la création des conditions de décrispation politique.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission Dialogue entre Congolais sur www.radiocapi.net. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du Journal du Matin, coordonnée et supervisée par Alain Irong Mouchige et mise en ordre par Pierre Diassinois. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.